Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de regarder la première lecture du mardi de la cinquième semaine du temps du carême. C'est un épisode tiré du livre des Nombres, au chapitre 21, les versets 4 à 9. Vous avez un récit mis en forme sur la feuille d'accompagnement. Et je vous lis ce récit dans la traduction que l'on trouve dans la Bible de Jérusalem. Situons d'abord brièvement le passage. Nous sommes dans le désert, le peuple était sorti d'Égypte, l'alliance avait été conclue au Sinaï, le peuple était arrivé jusqu'aux frontières de la terre promise, mais avait eu peur, n'avait pas fait confiance en l'aide du Seigneur pour prendre possession du pays, et du coup se retrouvait à vivre l'épreuve de 40 ans dans le désert pour apprendre à faire confiance au Seigneur. Donc ils se déplacent dans le désert pendant ces 40 ans. Ils ont dû renoncer au passage par Édom, car les peuplades qui se trouvaient là ont refusé de les laisser passer paisiblement. Et c'est pour ça qu'ils cherchent un nouveau chemin. Ils vivent grâce au don de la manne, et le Seigneur a déjà fait jaillir pour eux de l'eau dans le désert. Le frère de Moïse, Aaron, est mort juste avant le passage qui commence ici. Je débute la lecture. Ils partirent de hors la montagne par la route de la mer de Souf pour contourner le pays d'Édom. En chemin, le peuple perdit patience. Il parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? Car il n'y a ni pain ni eau. Nous sommes excédés de cette nourriture de famine. » Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants, dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse, « Nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur lui répondit, « Façonne-toi un serpent brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. » Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard. Et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Le narrateur nous indique que le peuple perdit patience. Le peuple trouve donc le chemin long. Le peuple en a assez et fatigué de cette marche dans le désert. Si le peuple est donc soumis à l'épreuve de la patience, c'est quelque chose qui peut nous intéresser, nous qui sommes aussi soumis à une épreuve de patience avec le confinement qui nous est imposé actuellement. Remarquons que cette perte de patience va entraîner de la part du peuple une colère et la volonté de trouver un responsable de sa situation. Le peuple parle contre Dieu et Moïse. Le peuple se cherche, on pourrait dire peut-être un bouc émissaire, et de dire, ben voilà, si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de Dieu, c'est à cause de Moïse. Et leur reproche va même se manifester plus loin, en soupçonnant le Seigneur et en soupçonnant Moïse d'une volonté peut-être homicide à leur égard. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? On peut noter l'expression d'une exagération, pour mourir en ce désert. Ben, ils ne sont pas encore en train de mourir. Ils sont éprouvés, assurément, mais ils ne sont pas en train de mourir. Et puis, remarquons que l'Égypte apparaît dans ce contexte comme un lieu, j'allais dire, carrément, quasiment idyllique, puisque c'est le lieu que l'on regrette. On se souviendra pourtant que, au début du livre de l'Exode, le Seigneur a entendu la lamentation que le peuple faisait monter tant il était malheureux sous l'oppression de Pharaon et des Égyptiens. tant il était malheureux des mauvais traitements qu'il subissait en Égypte. Exagération encore, en disant « il n'y a ni pain ni eau ». Alors, de fait, de façon, on va dire, naturelle, il ne trouve pas de pain, de magasin à pain, de champs de blé, il ne trouve pas non plus de grandes sources, ni de fleuves, évidemment, dans le désert. Pourtant, le Seigneur a fait jaillir l'eau du rocher lorsque le peuple allait cruellement manquer d'eau. Pourtant, le Seigneur les nourrit avec la manne, le pain du ciel. Ils sont en fait lassés de la manne, et cela les amène à cette exagération, ni pain, ni eau. Il n'y a plus de mesure, et nous voyons que nous sommes confrontés à ce même comportement, on pourrait dire cette même tentation, lorsque nous sommes excédés par quelque chose. Voilà que les mots « jamais, toujours » viennent entrer dans notre langage. On fait sauter les nuances, on fait sauter la distinction, peut-être que c'est souvent, mais ce n'est pas jamais, ce n'est pas toujours. Il n'y a peut-être pas ce pain, mais ils ont de la nourriture. Il n'y a peut-être pas des ruisseaux, mais le Seigneur fait jaillir de l'eau lorsque cela est vraiment nécessaire. Le Seigneur, dans cette traversée, leur donne, leur fournit ce qui est vital, mais ne leur fournit pas ce que l'on pourrait dire est confortable. Ils ont ce qui est vital, mais non pas ce qui est confortable. Eh bien, cela peut nous amener aussi à nous interroger. Comment réagissons-nous lorsque nous ne possédons que ce qui est vital, mais plus ce qui est confortable? Est-ce que nous considérons alors que la vie est insupportable, que la vie n'a plus de sens parce que notre confort nous a été retiré, alors que le nécessaire est toujours là? Est-ce que nous allons en vouloir à Dieu et l'accuser même d'une volonté homicide à notre égard parce que nous avons été dépouillés de notre confort? Il y a une sobriété dans l'existence à laquelle nous pouvons nous habituer ou redécouvrir, et découvrir aussi peut-être en parallèle combien notre attachement à ce qui n'était qu'accessoire a pu être profond. Parce que cet attachement nous empêche de voir ce que nous avons véritablement, ce dont nous disposons pourtant véritablement. Le peuple va alors faire l'expérience de la distinction qu'il y a entre la privation de confort et la réalité de la mort. C'est l'envoi des serpents brûlants. Serpents brûlants dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Alors le peuple perçoit que ce qu'il appelait mort, ce qu'il appelait volonté de mort et qui n'était que la privation du confort, n'a rien à voir avec la mort véritable. Et c'est l'occasion d'un retournement du cœur du peuple. Et l'on dit, le peuple vint dire à Moïse, « Nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. » Ils prennent conscience de cette distinction, ils prennent conscience de la confusion qu'ils avaient faite entre inconfort et volonté de mort. Rappelons peut-être une chose importante. Pourquoi est-ce que Dieu leur fait vivre cette période d'inconfort? Pour qu'ils apprennent à lui faire confiance. Le manque de confiance dans le Seigneur a empêché le peuple d'entrer dans la terre promise parce qu'il y voyait des ennemis. Il n'a pas eu confiance que le Seigneur le protégerait de ses ennemis, lui donnerait de défaire, de repousser ses ennemis. Et ultimement, la confiance en Dieu est ce qui nous permet de mener notre vie, et j'allais dire de mener notre vie jusqu'à son terme naturel, parce qu'il y a un moment où nos forces naturelles seront épuisées, et nous ne pourrons rien faire d'autre que dire « Père, en tes mains je remets mon esprit ». Mais soit nous aurons appris la confiance, nous aurons appris que Dieu veut notre bien, et alors nous déposerons notre vie entre ses mains, ou soit nous ne l'aurons pas appris et nous aurons l'impression que ce moment où notre force vitale nous abandonne est le moment où le néant survient et va nous engloutir. L'apprentissage de la confiance en Dieu, l'apprentissage de la confiance en Dieu et de la confiance en sa bienveillance est vraiment une clé de la vie éternelle. C'est pour ça que son apprentissage est si important. Le peuple demande à Moïse d'intercéder pour que le Seigneur éloigne d'eux ces serpents. Moïse ne va pas leur tenir rigueur de leur récrimination contre sa personne. Moïse assume vraiment son rôle de guide du peuple, son rôle aussi prophétique devant le peuple, hein, où il est à la fois du côté de Dieu et du côté du peuple, fidèle à Dieu et fidèle au peuple, quand bien même ce peuple à la nuque raide lui en fait voir, passez-moi l'expression, des vertes et des pas mûres. Là encore, cela vaut le coup de regarder la façon dont Moïse exerce la responsabilité qu'il a sur le peuple. Il ne fuit pas cette responsabilité alors que ce peuple le malmène. Il ne refuse pas d'être en charge du peuple alors même qu'on le conteste. Il a accepté cette mission, il a reçu cette mission et il l'assume véritablement. Moïse, du coup, est un exemple pour nous lorsque, au cœur de nos responsabilités, alors que nous sommes en charge de personnes, nous pouvons être lassés, bousculés par leur manque de collaboration ou par leur manque de confiance. Il y a une persévérance dans la mission de la part de Moïse qui est exemplaire. Quelle humilité de sa part et quel amour pour ce peuple de sa part pour continuer à exercer ainsi pleinement sa mission. Alors le Seigneur va répondre à l'intercession de Moïse, mais pas de la façon qu'avait demandé le peuple. Le peuple avait demandé que les serpents soient éloignés, ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Le Seigneur demande à Moïse de façonner un serpent d'airain, un serpent de bronze, et de le placer sur un étendard. Et il indique que quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. C'est ce que Moïse fait, et c'est de fait ce qui se passe. Si un homme était mordu par les serpents, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Que voit-on dans ce que le Seigneur fait? Eh bien, il n'a pas éloigné les serpents. Il y a quelque part, là, quelque chose de très important à noter, c'est que Dieu n'efface pas l'histoire. L'histoire même de la rébellion du peuple a eu lieu. Et cette rébellion a une conséquence qui transforme le monde, qui transforme leur chemin. Et Dieu ne fait pas que les événements de la liberté de l'homme n'aient pas eu lieu. Les événements de la liberté de l'homme sont précieux parce que c'est sa liberté, c'est le poids de sa liberté, et que la liberté de l'homme est une condition nécessaire pour que l'amour soit possible. Donc le Seigneur ne méprise pas la liberté de l'homme, mais le Seigneur, du coup, va transformer les conditions du chemin. C'est-à-dire que le chemin était devenu mortel avec tous ces serpents, fruit du péché de l'homme, fruit de l'absence de confiance de l'homme. Eh bien, le Seigneur va donner un remède à ce chemin qui est devenu mortel. Le Seigneur va déposer un remède sur ce chemin qui est devenu mortel. Voilà, l'histoire a bien eu lieu, les serpents sont présents, mais le Seigneur va faire en sorte que l'on ne meure pas ou qu'on ait la possibilité de ne pas mourir en continuant sur ce chemin, façonné par la réalité de la liberté de l'homme. Oui. Liberté de l'homme qui s'est manifestée dans la révolte et qui a entraîné les serpents, liberté de l'homme aussi qui est revenu vers le Seigneur et qui a appelé sa miséricorde, et qu'il l'obtient à partir de ce moyen de ne pas mourir en regardant le serpent de bronze qui aura été dressé sur l'étendard. Notons que ce n'est pas le serpent de bronze qui est magique, hein. C'est la foi dans la parole que le Seigneur a dite. Celui qui regardera le serpent ne mourra pas, il restera en vie. C'est en faisant cet acte de foi, en levant les yeux justement dans la foi, la confiance à la parole que le Seigneur a dite, que la guérison est accordée. Et cela suscite une question. À la fois, on comprend que donc le Seigneur respecte la réalité de la liberté de l'homme, donc il ne fait pas que l'histoire n'ait pas eu lieu, même s'il permet d'ouvrir un nouveau chemin, il met quelque chose qui permet de continuer le chemin dans la vie. Mais pourquoi donne-t-il à voir ce signe du serpent dressé? Pourquoi est-ce qu'il le donne à contempler? Il le donne à contempler pour amener le peuple à une lucidité sur l'histoire. Lucidité sur la réalité des conséquences du péché. Souvenons-nous, dans le livre de la Genèse, le serpent, c'est celui qui a mis en doute la qualité de l'amour que Dieu portait à Adam et Ève. Celui-ci le présentait Dieu comme un obstacle entre l'homme et son plus grand bonheur et sa plus grande vie. Voilà que le serpent est dressé, que le peuple se souvienne que l'absence de confiance dans la bienveillance de Dieu entraîne l'homme dans la mort. Il l'a entraîné dans la mort au jardin de la Genèse, il l'entraîne dans la mort dans le désert. Cette défiance de la qualité de l'amour que Dieu nous porte est vraiment un chemin de mort, porte un fruit de mort. Mais aussi une lucidité sur l'œuvre de Dieu. Celui qui est capable de voir son histoire, d'y reconnaître son péché, de se tourner vers le Seigneur qui donne la vie, reçoit la vie. Voilà, le péché n'est pas ce qui doit nous faire détourner les yeux, nous recroqueviller sur nous-mêmes et abandonner tout contact. La lucidité sur le péché nous amène à une ouverture au Seigneur, à une ouverture au Seigneur Dieu de vie plus grand que le péché, au Seigneur Dieu de vie qui sait ouvrir un chemin en respectant la liberté qui s'est exprimée, mais en donnant un avenir à ceux qui n'en avaient plus. Le serpent est élevé, il est à la fois mémoire du péché, mais aussi mémoire de la capacité de Dieu à ouvrir un chemin là où il n'y en avait plus. Et vous comprenez du coup pourquoi le Christ se saisit de cet épisode de l'Ancien Testament pour donner à contempler ce qui adviendra, lui dressé sur la croix. Le Christ dressé sur la croix, c'est la lucidité sur le péché des hommes. Ils ont mis à mort l'innocent, ils ont mis à mort celui que le Père avait envoyé. C'est le summum de la malice qui est reconnu, qui est manifesté. Et en même temps, le Christ élevé sur la croix devient le chemin de salut pour l'humanité. Car cet amour vécu jusqu'au bout, jusqu'à travers l'épreuve de la croix, est ce qui ouvre à l'homme pécheur, à l'homme miséricordier, un chemin vers la vie. La croix du Christ deviendra le lieu de lucidité par excellence, lucidité sur le péché dans l'histoire des hommes, et lucidité sur la miséricorde de Dieu qui ouvre un chemin. Au terme de ce commentaire, je vous invite à réfléchir sur quelques questions. La première question, c'est, en ce temps de confinement, où en est ma réserve de patience? Est-ce que je me sens excédé comme le peuple hébreu? La deuxième question, est-ce que, à la manière du peuple hébreu, qui dit n'avoir ni pain ni eau, est-ce que la privation de mon confort me rend aveugle sur le nécessaire dont je dispose encore? Que le peuple hébreu avait quand même la manne et le Seigneur faisait sortir l'eau du rocher, mais il ne le voyait plus. Troisième question, comme le peuple hébreu qui oublie que s'il n'est pas encore en terre promise, c'est parce qu'il a refusé d'y entrer, quelle est aussi ma propension à chercher un coupable, quelqu'un à blâmer? Cette situation de confinement me fait-elle réfléchir sur mon mode de vie? Quatrième question, suis-je familier avec ce fait de l'histoire du salut? Dieu ne fait pas que l'histoire de la liberté des hommes n'ait pas eu lieu, mais il ouvre un passage nouveau, donne un avenir. Parce que je suis familier avec ce fait de procéder de l'histoire du salut. Est-ce que je suis à l'aise avec lui aussi? Voilà, Dieu ne fait pas que les choix qu'on a faits n'aient pas eu lieu. Ils ont eu lieu, ils ne seront pas effacés. Mais il ouvre un chemin à partir de là où on en était. Il ouvre un chemin pour donner un avenir. Est-ce que je suis familier avec cette façon de procéder de l'histoire du salut? Et puis je vous donne une petite suggestion, en particulier si vous êtes en responsabilité, c'est de songer à demander l'intercession de Moïse quand vous êtes confronté à des collègues ou à des subordonnés qui sont lourds à porter ou à conduire. Voilà. Comme Moïse a été celui qui, avec patience et persévérance, a intercédé pour le peuple, eh bien, n'hésitez pas à vous confier à son intercession lorsque dans vos responsabilités, vous trouvez que ceux que vous menez sont quand même lourds, sont quand même à la nuque raide, difficiles à conduire. Demandez-lui son aide pour pouvoir poursuivre vous aussi, droitement et justement, votre responsabilité. Je vous souhaite de bons échanges, bien en union de prière avec vous.